Silcast présente l'analyse longue, thème du jour, climat et transition énergétique, avec Marc et Victor. Bonne écoute.
On est en pleine vague de chaleur européenne. L'Ouest sort de son juin le plus chaud jamais enregistré. La côte est américaine se réveille encore une fois sous un ciel orange. Et pendant ce temps, la Commission européenne publie la révision de son marché carbone. Trois signaux qui se répondent, et un quatrième article, dans AOC, qui essaye de recoller les morceaux, avec l'hydrogène bas carbone. Trois articles structurants pour nous aujourd'hui, Victor. Plus celui-là en synthèse, reporter sur Gonfreville, le Guardian sur l'ETS et le New York Times sur les feux de la côte Est.
La thèse d'ensemble, si je dois la poser tout de suite, on constate partout que le climat cogne plus fort et plus vite que prévu, et au même moment, les institutions qui étaient censées répondre reculent d'un cran. Il y a un décrochage entre l'urgence physique et la volonté politique. Commençons par Reporter, parce que c'est là que le concret saute aux yeux.
Oui, le 26 juin dernier, coupure de courant à la raffinerie de Gonfreville-Lorchère, près du Havre, provoquée par la canicule. Le reportage part de là et va voir les riverains, la cité ouvrière des Côtes-Blanches, à côté de l'usine. Ce qui frappe, c'est le fatalisme. Xavier Bullet, un habitant, dit texto « On n'y pense pas, on vit avec, on n'a pas le choix ». Et derrière cette phrase, il y a une réalité industrielle nouvelle. La canicule, ce n'est plus juste un problème de santé publique pour les personnes âgées à Paris. C'est un problème de fiabilité des sites Seveso.
Et c'est là que ça devient intéressant à décortiquer. Les raffineries, les usines chimiques, elles ont été conçues avec des marges de sécurité calibrées sur un climat qui n'existe plus. Refroidissement par eau de rivière, quand la rivière est à 28 degrés, ça ne refroidit plus. Réseau électrique qui saute quand la demande explose sur la clim. Tu multiplies les points de défaillance simultanés. Et le risque agrégé, sur l'ensemble des sites industriels dangereux en France, il augmente d'un cran à chaque été.
Le point politique que je retiens, c'est que le débat public sur les risques industriels reste calé sur AZF et Lubrizol, c'est-à-dire des accidents ponctuels avec une cause identifiable. Là, on parle d'un facteur de risque diffus, systémique, qui ne se traduira pas forcément par un grand accident spectaculaire, mais par une accumulation d'incidents. C'est beaucoup plus difficile à faire tenir politiquement parce qu'il n'y a pas d'événement fondateur.
Et pour les gens qui vivent autour, Reporter montre bien que le choix, en réalité, ils ne l'ont pas. Déménager, c'est le prix de l'immobilier, le boulot, la famille. Donc le fatalisme n'est pas de la résignation morale, c'est un calcul rationnel dans un cadre contraint. Ça pose une question de justice qui dépasse l'industrie. Ceux qui subissent le risque climatique concentré ne sont pas ceux qui décident du rythme de la transition.
Ce qui nous amène assez naturellement au Guardian et à l'ETS. Parce que la question, c'est justement, à quel rythme on décarbonne l'industrie lourde et qui paye?
Résumons ce que propose la Commission. Le système d'échange de quotas, l'ETS, existe depuis 2005. Il est crédité de 47% de baisse des émissions couvertes entre 2005 et 2023. C'est, chiffre à l'appui, l'outil climatique européen le plus efficace. Wopke Hoekstra, le commissaire au climat, le reconnaît lui-même. Sans l'ETS, l'Europe aurait consommé 100 milliards de mètres cubes de gaz en plus. Et c'est cet outil-là que la révision annoncée mercredi affaiblit.
Précisons comment. 1. Plus de permis gratuits pour certaines industries lourdes, plus longtemps. 2. Réduction plus lente du nombre total de quotas en circulation, donc prix du carbone qui monte moins vite. 3. En compensation, si j'ose dire, extension à de nouveaux secteurs, déchets municipaux, vol dans un rayon de 5000 km. Jet privé pour la première fois. Politiquement, c'est un package classique. On lâche du lest sur le cœur du dispositif et on ajoute des sujets symboliques pour tenir la façade.
Le calcul de la Commission, il faut le poser honnêtement. Ils sont pris dans un étau. 10 États membres poussent pour alléger en invoquant les coûts de l'énergie et la compétitivité face aux États-Unis et à la Chine. De l'autre côté, l'objectif de 90% de réduction en 2040 et la neutralité en 2050. Hoekstra dit, des entreprises préfèrent délocaliser plutôt que d'investir dans la production propre en Europe. On ne peut pas laisser ça continuer. Bon, regardons les options froidement. Option A, on tient la trajectoire dure et on laisse le prix du carbone monter. Bénéfice, signal prix clair pour investir dans le propre. Coût, risque réel de fuite de carbone, des sites qui ferment en Europe et rouvrent ailleurs avec des émissions équivalentes ou pires et de la casse sociale. Option B, celle choisie. On allège pour garder l'industrie sur le sol européen, en espérant qu'elle décarbone quand même. Bénéfice, on garde les emplois et le contrôle industriel. Coût, on retarde la baisse des émissions et on affaiblit le signal prix qui justement pousse à investir.
Et honnêtement, quand tu regardes qui bénéficie de l'assouplissement, ce sont exactement les industries qui auraient dû être décarbonées en priorité. Acier, ciment, chimie. Les Verts au Parlement, Michael Bloss, cité par le Guardian, disent que c'est une licence à polluer plus longtemps et moins cher. Et le DGBEF pointe le vrai problème pour moi. Un prix du carbone imprévisible, c'est ce qui tue l'investissement dans les technologies propres. Parce que si tu es un industriel qui envisage un four électrique à hydrogène plutôt qu'un four à charbon, ton business plan repose sur un différentiel de coût carbone crédible sur 15 ans.
C'est là que je pencherai quand même vers un jugement critique de la révision. Pas parce que la déontologie climat l'exige, mais parce que le calcul de la Commission me paraît myope. Tu protèges l'industrie existante à court terme, tu détruis la visibilité pour l'industrie future. Et à l'échelle des populations concernées, ce n'est pas un bon échange. Tu sauves des emplois dans des filières qui de toute façon devront muter. Et tu retardes la mutation qui créerait les emplois d'après. Pour le plus grand nombre sur 10 ans, l'option A, même avec ses coûts, était probablement meilleure.
Je te suis en partie, mais je pose une nuance social-démocrate. Le problème de l'option A, ce n'est pas qu'elle est mauvaise en théorie, c'est qu'elle est intenable politiquement si tu n'as pas mis en place le filet social qui va avec. Et là, la Commission n'a pas ce filet. Le Fonds social pour le climat existe, mais il est sous-doté. Donc si tu tiens la ligne dure, sans mécanisme d'accompagnement, tu produis Trump en France dans 5 ans. Ce qui manque à la révision, ce n'est pas de la fermeté, c'est le volet compensation. Sans ça, tout affaiblissement est prévisible et tout durcissement est explosif.
D'accord là-dessus. C'est un raté de séquencement politique plus qu'un raté technique. Passons au 3e article, le New York Times, David Wallace Wells sur la côte est américaine.
C'est un format vidéo-opinion, mais l'argument est net. Ciel orange en 2023, en 2025, en 2026, 3 fois en 4 ans. Wallace Wells dit « La côte Est n'est absolument pas équipée pour ce qui devient sa nouvelle réalité, à savoir la fumée des feux venus du Canada et bientôt de ses propres forêts. » Et sa formule que je trouve juste. On n'est pas en train de s'adapter à une nouvelle normale. On encaisse et on se prépare mentalement pour la suivante, sans jamais rattraper.
Ce qui est frappant, c'est le décalage cognitif. La Californie, le Sud-Ouest, ils ont une culture du feu, des codes de construction, des systèmes d'alerte. La côte Est, New York, Boston, Philadelphie, non. Les hôpitaux ne sont pas équipés pour des pics massifs de crises respiratoires liées au PM2.5. Les écoles n'ont pas de protocole. Et surtout, le parc immobilier n'est pas filtré. Wallace Wells insiste sur le fait qu'à chaque épisode, on découvre les manques. On répare un peu, et l'épisode suivant révèle d'autres manques.
Et là où l'article fait le lien avec les deux précédents, c'est sur cette idée que l'adaptation coûte cher, qu'on la finance en réaction et pas en anticipation, et qu'à chaque cycle, on paye plus cher qu'on aurait payé en prévention. C'est exactement la même mécanique qu'à Gonfreville. On vit avec, on répare après. Et c'est exactement la logique que la révision de l'ETS entérine à l'échelle continentale. On relâche l'atténuation, ce qui nous obligera à payer plus en adaptation ensuite.
Le point que je trouve intellectuellement solide chez Wallace Wells, c'est qu'il refuse le mot « nouvelle normale ». Parce que « normal » suppose une stabilisation. Or, on n'est pas dans une stabilisation, on est dans une trajectoire. Chaque année installée devient la référence basse de l'année suivante. Et ça change la nature du problème politique. Tu ne peux pas voter un plan d'adaptation pour le climat de 2026. Parce qu'en 2030, il sera déjà obsolète. Il te faut des institutions capables d'itérer vite. Or, les démocraties occidentales, États-Unis en tête, ne sont pas outillées pour ça.
Et c'est pour ça qu'il faut dire un mot d'AOC et de l'hydrogène bas carbone en synthèse, parce que ça vient boucler. L'article pose le trilemme européen. Climat, souveraineté, compétitivité. Décarboner en important toute Chine, ce n'est plus tenable géopolitiquement. Fabriquer soi-même, c'est plus cher, et ça suppose une politique industrielle que l'Union assume mal. L'hydrogène bas carbone est présenté comme la solution qui coche les 3 cases, mais l'auteur souligne, à juste titre, que ça bute sur un problème de coordination structurelle et sur un mandat industriel européen fragile et contesté.
Et si on met ça en perspective avec l'ETS affaibli, c'est presque tragique. Parce que le prix du carbone crédible, c'est précisément ce qui rendrait l'hydrogène bas carbone rentable face au gaz. Tu affaiblis l'ETS, tu tues le business case de l'hydrogène. Et donc tu tues aussi le levier de souveraineté industrielle que la Commission dit vouloir défendre. Elle se tire une balle dans le pied, dans les deux dimensions du trilemme en même temps.
Ce qui me ramène à ma nuance de tout à l'heure. Ce n'est pas seulement une erreur technique, c'est un problème de construction politique. L'Europe n'a pas les instruments budgétaires pour compenser, socialement, une transition dure. Elle n'a pas les instruments industriels pour piloter une filière comme l'hydrogène. Donc à chaque arbitrage, elle recule sur l'atténuation, parce que c'est le seul levier qu'elle contrôle, vraiment en important. Et elle promet des adaptations et des filières qu'elle ne peut pas garantir. Et pendant ce temps, à Gonfreville, à New York, à Séville, les gens encaissent.
Ce que je retiens transversalement des trois articles, c'est qu'on est en train d'inverser silencieusement la stratégie climatique européenne et occidentale. On passe d'un modèle centré atténuation, où on limite les émissions pour éviter les impacts, à un modèle par défaut d'adaptation subie, où on encaisse les impacts parce qu'on n'a plus le courage politique d'imposer les coûts d'atténuation. Et cette bascule, personne ne l'annonce, personne ne la vote. Elle se fait par petites révisions techniques, par renoncements incrémentaux, dont l'ETS révisé cette semaine est un exemple net.
On est d'accord sur le constat, un peu moins sur la lecture. Toi, tu vois un renoncement. Moi, je vois plutôt l'aveu qu'on n'a jamais construit l'architecture politique nécessaire pour tenir la trajectoire ambitieuse. Le Green Deal de 2019 a été voté sans son pilier social ni son pilier industriel. On récolte aujourd'hui l'impossibilité de tenir sans ces piliers. Ce n'est pas exactement pareil, parce que ça pointe la solution. Reconstruire ces piliers, pas seulement dénoncer le recul.
Juste. Et je te concède que dénoncer sans proposer d'architecture crédible, c'est ce qui fait la faiblesse d'une partie du discours écologiste actuel. Sur le fond, on partage. On ne s'en sort pas sans un cadre politique qui absorbe les coûts de transition de manière juste. Ce qui manque cet été 2026, ce n'est pas le diagnostic, il est fait. C'est la coalition politique capable de le porter.
On s'arrête là-dessus. La révision de l'ETS entre en négociation avec le Parlement et les États membres à la rentrée. On aura l'occasion d'y revenir.